Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 18 novembre à Séoul et aujourd'hui la Corée du Sud a affronté la plus forte vague de froid de cet automne. La température est brusquement passée sous zéro dans la capitale, tandis que des alertes au froid ont été émises dans plusieurs régions de l'Est. Le temps devrait rester clair, sec et nettement plus froid dans les jours à venir, une situation qui incite à redoubler de prudence face aux coups de froid de saison. C'est dans cette atmosphère hivernale qui s'installe un peu trop tôt que s'ouvre notre édition de ce mardi. Que se passe-t-il lorsque la BD française rencontre le format du webtoon sud-coréen? Ce festival en donne un premier aperçu. Jedam Media et l'ambassade de France à Séoul lancent la French Toon Selection, un événement organisé sur la plateforme Jedam Shorts. Sous la direction de Hwang Nam-young, Jedam Media s'est associé au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade pour donner forme à ce projet. Cette première édition a pour ambition de faire connaître au public coréen la création française encore peu repérée dans le pays. Dès le mois de septembre, un appel à candidature avait été lancé auprès d'auteurs et d'autrices installés en France et un comité réunissant des producteurs et des spécialistes au sein de Jedam Media a retenu 10 œuvres qui seront bientôt présentées sur Jedam Shorts. Après leur traduction en coréen, ces œuvres seront accessibles gratuitement à partir de mars 2026 pendant 3 mois. À l'issue de cette période, Jedam Media sélectionnera celle qui aura suscité le plus d'intérêt, conclura un contrat avec son auteur et accompagnera son arrivée sur le marché local. La France, forte de son histoire dans le 9e art, occupe aujourd'hui une place croissante dans le webtoon européen. Les créateurs français ont puisé dans le format coréen tout en conservant cette influence de la bande dessinée, donnant naissance à des approches variées, du récit intime à la fiction historique jusqu'aux univers inspirés de la pop culture. Les 10 œuvres retenues témoignent de cette diversité. Inscrit dans le programme des célébrations du 140e anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes prévues en 2026, l'initiative bénéficie de l'appui du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Institut français engagé dans la mise en valeur internationale des industries culturelles et créatives. Hwang Nam-young, PDG de Jedam Media, a salué un partenariat qui, selon lui, encouragera de nouvelles formes de création. Il a rappelé la volonté de son entreprise de renforcer les collaborations internationales et de soutenir leur diffusion à l'échelle mondiale. Pierre Morcos, conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Corée du Sud, a souligné le potentiel des artistes impliqués dans ce projet. Il a exprimé l'espoir que cette sélection permette à ses auteurs de rencontrer un lectorat plus large, en Corée comme à l'étranger. Alors que les élections locales de juin prochain restent encore lointaines, les prétendants commencent déjà à se montrer dans toutes sortes d'événements. Certains arborent même des badges colorés rappelant que se portent souvent les artistes de K-pop dans les émissions musicales. Cette proximité affichée peut prêter à sourire, mais elle finit aussi par lasser une partie des citoyens. Le 13 novembre, jour de l'examen national d'aptitude pour les études universitaires, le Suneung, Lee Jong-sun, le superintendant de l'éducation de Gwangju, s'est présenté devant le lycée Sok-sok pour encourager les candidats. Sur sa poitrine, un badge au design mignon affichait le message « Bonne réussite au Suneung, surintendant Lee Jong-sun ». Les banderoles brandies par les cadres du bureau de l'éducation montraient son visage tenant la main d'un élève. L'initiative pouvait sembler bienveillante, mais certains y ont vu une tentative un peu trop voyante de se mettre en avant le jour même de l'examen le plus stressant de l'année. Dans les villages, comme dans les quartiers urbains, les prétendants portent leurs badges et distribuent leurs cartes, profitant de chaque événement pour se rendre visible. Cette présence insistante agace parfois les habitants et il arrive même que les prises de parole successives retardent le déroulement des festivités. Certains se sont déjà mis à saluer les passants dès les premières heures de la matinée et lorsque les médias lancent leurs enquêtes d'opinion, les messages demandant de répondre au numéro commençant par 02 se multiplient au point d'envahir les téléphones comme une pollution numérique. En effet, l'épisode récent de Moon In, chef du district de Bukku à Gwangju, monté sur scène lors d'un enregistrement de l'émission musicale National Singing Contest, entouré de fonctionnaires femmes transformées en danseuses de fond, a renforcé les critiques. Beaucoup y ont vu un manque de sensibilité aux questions de genre, autant qu'une précipitation maladroite à vouloir se promouvoir. dans le district de Seogwu, à Gwangju toujours, un citoyen d'une quarantaine d'années a expliqué dans une interview avec l'agence de presse Yonhap: lorsqu'ils s'acharnent ainsi à faire connaître leur nom, je me demande simplement s'ils ont réellement tenté de dialoguer avec les citoyens jusqu'à présent. J'aimerais qu'ils mettent davantage l'accent sur un échange sincère et sur leurs propositions. Les prix ne changent pas, mais les portions deviennent soudainement plus timides. Récemment, cette nouvelle stratégie dite « inflation cachée » qui joue sur les calculs et perceptions des consommateurs alimente les critiques en Corée du Sud. Après le poulet frit, la street food se retrouve elle aussi au cœur du débat, un phénomène que beaucoup décrivent comme un rapport qualité-prix trompeur. Face à cette impression de faux avantages, le gouvernement comme les internautes commencent à élever la voix. Les autorités sud-coréennes examinent désormais l'idée d'étendre l'obligation d'indiquer le poids réel aux plats préparés aux aliments cuisinés sur place. Cette piste s'inscrit dans leur volonté de freiner la shrinkflation, soit réduflation en français. Le dispositif prévoit d'exiger que les fabricants précisent clairement le poids ou le nombre d'unités présents dans chaque emballage mis en vente. Dans ce contexte, les chaînes de poulet ne cachent pas leur réticence. Cette réflexion découle du cas d'une des plus grandes marques de poulet du pays. L'entreprise avait diminué la quantité de ses morceaux tout en maintenant le prix, une manière d'augmenter sa marge. Le 14 octobre, Song Jong-hwa, PDG de la firme, a présenté des excuses pour n'avoir pas informé correctement les consommateurs de la réduction de poids et du changement de matières premières. Les chaînes redoutent que la nouvelle obligation ne crée de la confusion dans les points de vente. Les sièges livrent des morceaux de taille et de qualité déterminés, mais la cuisson peut entraîner une baisse de poids difficile à maîtriser. Un responsable du secteur du poulet frit a expliqué que l'évaporation de l'humidité provoquait une diminution inévitable et que les franchisés ne disposaient d'aucun moyen pour compenser cette perte. Il a indiqué qu'ajouter des pièces supplémentaires pour combler l'écart ferait monter les coûts. Notre source du milieu a rappelé que relever les prix exposait les marques au risque de perdre leur clientèle. Le poulet, la pizza ou l'hamburger peuvent facilement être remplacés par d'autres options et aucune marque ne détient une position dominante. Modifier les prix ou les portions reste donc une décision particulièrement délicate. Les associations de consommateurs saluent la démarche des autorités, estimant qu'elles protègent le droit à une information transparente. Depuis l'an dernier, la Korea Consumer Agency vérifie régulièrement les pratiques liées à la réduflation. 57 produits ont vu leur quantité amputée tout en conservant leur prix, ce qui revient à augmenter le coût réel à l'unité. Dans un entretien accordé à Chosun Biz, Yoon Hee, professeur en sciences de la consommation à l'université d'Inha, a expliqué que les acteurs du secteur doivent comprendre qu'informer clairement les clients sur le prix et le contenu consiste la seule manière de préserver durablement la confiance du public. Écoutons à présent une chanson de circonstance. Voici Chicken de Limi Ngamja.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 18 novembre 2025 vous est présentée par Maxime Lalot. Un salarié de 33 ans fait appel à un service de ménage deux fois par mois. Il confie le nettoyage des sols, de la cuisine et de la salle de bain, mais aussi le tri des déchets, l'évacuation des restes alimentaires. Il explique avoir hésité avant de laisser quelqu'un s'occuper de son appartement, puis avoir compris une fois le service effectué que le résultat était bien plus propre et que cela l'avait vraiment soulagé. Il estime que payer pour ce service relève d'un choix raisonnable puisqu'il lui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Ce témoignage reflète une tendance en plein essor chez les 20 et 30 ans qui optent de plus en plus pour des services chargés d'entretenir leur espace personnel. Le rythme de travail et la fatigue quotidienne laissent peu de marge pour s'occuper de son logement, ce qui encourage l'externalisation des tâches domestiques. Cette évolution suscite toutefois des critiques, notamment à propos des conflits déclenchés par des objets abîmés, ainsi qu'au manque de transparence sur l'identité de certaines aides ménagères. Selon une société de ménage, le 12 novembre, 45% des utilisateurs recensés le mois dernier avaient entre 20 et 30 ans. Ce chiffre représente une hausse de 5 points par rapport à l'année précédente. Les demandes de nettoyage de studios, souvent occupées par des jeunes adultes vivant seuls, ont également bondi de 80% sur la même période. Sur les forums en ligne, les annonces se multiplient désormais. Certaines proposent 30 000 won, environ 20 euros, pour un nettoyage rapide de studio. D'autres cherchent quelqu'un pour faire la vaisselle ou s'occuper du linge. Un internaute, dont le logement était devenu ingérable, expliquait vouloir trouver une femme prête à l'aider pour nettoyer la salle de bain, laver la vaisselle et trier les déchets, en précisant qu'une rémunération serait offerte. Cette popularité croissante entraîne cependant une augmentation des litiges entre les prestataires et leurs clients. Les plaintes concernent surtout des dommages causés à des appareils électroménagers, à des meubles ou à d'autres objets du quotidien. Un client expliquait avoir constaté une rayure sur un meuble après l'intervention et avoir reçu pour seule explication que la marque pouvait dater d'avant. Cette externalisation du ménage suscite donc des avis partagés. Certains y voient une manière rationnelle de gagner du temps et de préserver ses forces, tandis que d'autres s'inquiètent de l'habitude qui consiste à déléguer des tâches jugées élémentaires. Dans un entretien avec le quotidien économique The Asian Business Daily, Ho Chang-dok, professeur de sociologie à l'université Yongnam, a souligné que cette pratique, en particulier chez les jeunes, ne relève en rien de la paresse. Selon lui, l'évolution des rythmes professionnels, qui maintient beaucoup de personnes hors de leur domicile du matin au soir, explique pourquoi confier ces tâches à des spécialistes apparaît désormais comme une option logique. Le théâtre Charlotte, théâtre sud-coréen entièrement dédié à la comédie musicale et situé dans l'arrondissement de Songpa à Séoul, devient le premier grand établissement du pays à proposer des lunettes de surtitrage en service commercial. Ce dispositif repose sur un système d'intelligence artificielle capable de reconnaître en temps réel les dialogues prononcés sur scène et de projeter des surtitres multilingues sur les verres. Par exemple, pour un spectacle joué en anglais, le spectateur qui choisit l'option coréenne voit immédiatement apparaître la traduction sur ses lunettes. Cette innovation devrait élargir l'accès aux comédies musicales. Elle s'adresse aussi bien aux spectateurs étrangers attirés par les productions coréennes qu'aux personnes sourdes ou malentendantes qui pourront suivre le spectacle sans contrainte. Jusqu'ici, ces lunettes connectées avaient seulement été testées dans de petites salles de déhaklo ou lors de représentations limitées. C'est donc la première fois qu'un grand théâtre les propose au public général. Jusqu'à présent, les dialogues en langue étrangère étaient affichés sur des écrans placés de part et d'autre de la scène, ce qui obligeait l'audience à détourner le regard. Ces nouveaux outils permettent au contraire de suivre la scène et les surtitres en même temps, renforçant ainsi l'immersion. Le système de surtitrage multilingue offre également aux spectateurs étrangers la possibilité de profiter pleinement du rythme et de l'émotion du spectacle sans équipement supplémentaire. Il devrait aussi séduire une jeune génération habituée à regarder des contenus avec des sous-titres en rendant l'expérience plus fluide et plus familière. Ce nouveau mode de visionnage pourrait ouvrir une nouvelle étape pour la culture du spectacle vivant. Un membre de l'équipe du théâtre a expliqué que la comédie musicale reposait avant tout sur l'intensité du live. Il a ajouté que l'introduction de ces lunettes visait à garantir à chacun un même niveau d'immersion et qu'il s'agissait d'une manière de permettre à un public plus large de profiter librement des spectacles. Le chanteur pop international Troye Sivan a récemment publié sur ses réseaux sociaux un court message qui a suffi à enflammer la toile. « I love kimchi so much ». En français, « J'adore le kimchi », accompagné d'un emoji en larmes. Quelques mots seulement, sans explication supplémentaire, et les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes sud-coréens se sont immédiatement amusés de ce message. Certains demandaient s'ils savaient que c'était justement la période du kimjang, cette période où l'on prépare le kimchi pour les mois d'hiver. D'autres voulaient savoir quel kimchi l'avait tellement séduit. Troye Sivan n'est pas le seul à afficher son affection pour la cuisine coréenne. La rappeuse mondiale Cardi B a récemment déclaré en direct sur Instagram avoir acheté du thon pimenté coréen dans un H-Mart, la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques aux États-Unis. Elle a même montré comment elle mélangeait le thon avec de la mayonnaise avant de le déguster avec du riz et une feuille d'algue. Elle a qualifié cette combinaison de parfaite, ce qui a rapidement attiré l'attention en ligne. La vidéo montée de ce live a dépassé les 4 millions de vues sur YouTube avant d'envahir TikTok et Instagram. De nombreux utilisateurs ont ensuite publié leurs propres essais, contribuant à la popularité du thon pimenté façon Cardi B. Avec cette vague, plusieurs produits associés aux stars de la K-pop gagnent en popularité. Kim, Kimbap, Tteokbokki ou encore Mandu sont désormais considérés par de nombreux fans étrangers comme des incontournables à goûter au moins une fois dans sa vie. Les algues assaisonnées, en particulier, se distinguent comme un snack vegan, pratique et sain, avec des ventes en hausse constante aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Corée et le Korea Trade Statistics Promotion Institute, les exportations de produits alimentaires sud-coréens ont atteint l'an dernier près de 7,02 milliards de dollars, soit plus du double qu'il y a 10 ans. Cette progression doit beaucoup à la diversification des produits qui vont des plats prêts à consommer comme les lamyon, tteokbokki ou mandu aux compléments à base de ginseng et de probiotiques ainsi qu'à des options telles que les snacks d'algues ou les boissons. Ainsi, la K-food ne se résume plus à une spécialité exotique, elle s'intègre désormais à la culture populaire mondiale portée par l'essor du K-contenu. À une époque où beaucoup cherchent du réconfort dans un boule de soupe brûlante et où de nouveaux défis émergent grâce à de la sauce pimentée, la prochaine star de la vague coréenne pourrait bien être un simple plat. Et juste avant de passer le micro à Valentine Philippe pour Carte Postale, je vous propose d'écouter Lamyon Do You.
Je vous emmène au cœur de Séoul, dans un bâtiment qui symbolise à lui seul la rencontre entre design, modernité et technologie, le Dongdaemun Design Plaza, ou DDP. Mais aujourd'hui, nous allons explorer ce lieu sous un angle particulier, la visite architecturale, pour comprendre comment la grande architecte Zaha Hadid a transformé l'espace en un chef-d'œuvre futuriste. Participer au DDP Architect Tour, c'est découvrir les secrets de ce lieu hors du commun. Marcher sur des rampes sinueuses, des surfaces ondulées et des halls immenses où chaque courbe a été pensée pour créer un flux et offrir une expérience unique. Le DDP n'est pas seulement un bâtiment, c'est une sculpture habitable. Chaque angle, chaque courbe raconte une histoire. Et l'architecture elle-même devient un langage que l'on peut lire et ressentir. Le tour architectural met en valeur les détails invisibles à première vue. L'utilisation de la lumière naturelle, les matériaux, les espaces de circulation et la manière dont le design intègre technologie et esthétique. Avec ses 45 000 panneaux d'aluminium tous différents, chaque façade, chaque surface semble onduler et vibrer au rythme de la lumière du jour et des éclairages nocturnes. On découvre aussi l'histoire du quartier de Dongdaemun où passé et modernité se croisent. Le DDP a été conçu pour s'intégrer subtilement avec les vestiges historiques, à proximité, tout en devenant un espace futuriste capable d'accueillir expositions, défilés de mode et festivals lumineux. La nuit, le bâtiment s'illumine, offrant un spectacle fascinant qui attire les photographes et les visiteurs du monde entier. En explorant le DDP, on passe par des galeries d'exposition, des halls immenses et même des toits accessibles au public. Les anecdotes sur la vision de Zaha Hadid, surnommée la reine des courbes, et sur les défis techniques de la construction rendent la visite vivante et passionnante. On réalise à quel point chaque détail, du moindre panneau aux espaces publics, a été pensé pour créer une expérience sensorielle unique. En extérieur, le DDP révèle d'autres surprises. Les places publiques, les espaces verts et les installations temporaires créent une atmosphère qui mêle art et détente. Les visiteurs prennent le temps de s'arrêter, de photographier, ou simplement d'admirer les jeux de lumière sur les surfaces métalliques ondulées. La fluidité des espaces invite à marcher lentement, à observer et à comprendre l'architecture comme un art vivant. Enfin, ce qu'on apprécie au DDP, c'est ce contraste. En sortant, vous êtes à deux pas du marché traditionnel de Dongdaemun, avec ses stands de street food et ses petites boutiques ouvertes jusqu'à l'aube. Le passé et le futur se croisent en un seul lieu, et chaque visiteur repart avec une meilleure compréhension de l'architecture moderne, du design coréen contemporain, et surtout avec le souvenir d'avoir exploré un lieu emblématique de Séoul, sous un angle inédit et captivant.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Hajin Ho à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.